Quand quelqu'un comparaît devant un tribunal pour répondre des accusations qui sont portées contre lui, le procureur de la République explique au juré les raisons pour lesquelles il doit être envoyé en prison. C'est exactement ce que fait le prophète Amos, qui énumère les fautes accumulées par le royaume d'Israël Nord. La culpabilité de la nation est grande et aucune circonstance ne plaide en sa faveur. Au contraire, au lieu d'être reconnaissant à l'Éternel pour tous ses bienfaits, les Israélites se sont détournés de lui et font ce qui est mal avec une désinvolture déconcertante. Dieu est choqué par la conduite de son peuple. Je continue à lire dans le chapitre 2 du livre d'Amos. « Pourtant, moi, j'ai détruit devant eux les Amoréens qui sont aussi grands que des cèdres et forts comme des chênes, et j'ai détruit leurs fruits et tranché leurs racines. Pourtant, moi, je vous ai fait sortir d'Égypte, et je vous ai conduit pendant 40 ans au désert pour que vous possédiez le pays des Amoréens. » Versets 9 et 10. Amos n'annonce pas la sentence immédiatement après l'accusation comme il l'a fait avec les 7 nations précédentes, mais il ouvre une parenthèse. Il fait ressortir l'ingratitude des Israélites et la gravité de leurs péchés en leur rappelant que c'est l'Éternel qui les a délivrés de l'esclavage égyptien, c'est l'Éternel qui a pourvu à leurs besoins pendant 40 ans dans le désert, et c'est aussi lui qui a chassé les Cananéens de Palestine afin de la leur donner. Je lis le passage. « Je vous ai fait pénétrer dans le pays des Amoréens établis à l'est du Jourdain. Ils vous ont combattu, mais je vous ai donné la victoire sur eux, et vous avez pris possession de leur pays, car je les ai détruits devant vous. » Ce peuple avait des gens de taille impressionnante. Un texte parlant du lit d'un roi qui s'appelait Og dit qu'il faisait plus de 4 mètres de long et près de 2 mètres de large. Je continue le texte. « J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vœux. N'en est-il pas ainsi, Israélite? L'Éternel le demande. » Verset 11. Une fois installé dans son nouveau pays, Dieu a parlé à son peuple par les prophètes qui, depuis Samuel surtout, ont été nombreux en Israël. Puis Amos mentionne ceux qui se consacraient à l'Éternel pour un temps limité ou pour la vie, comme les juges Samson et Samuel. Ces gens faisaient un vœu très particulier. Je lis le passage. « Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de liqueur forte, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une liqueur forte, il ne boira d'aucun breuvage tiré des raisins, et il ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec. » Fin de citation. Ceux qui avaient fait le vœu de Naziréa étaient les modèles du troupeau, pour ainsi dire. Par leur exemple de vie, Dieu rappelait à tous les Israélites qu'ils formaient un peuple à part qui devait être zélé pour lui et pour les bonnes œuvres. Je continue le texte. « Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin et aux prophètes, vous avez ordonné, ne prophétisez pas. » Verset 12. Les Israélites, le peuple choisi, ont intimidé ou menacé ceux qui étaient au service de l'Éternel. Ils ont dépassé les limites. Leurs fautes sont impardonnables et Dieu va les châtier comme il le mérite. Je finis le chapitre 2 du livre d'Amos. Je vais vous écraser sur place comme un chariot chargé de gerbes écrase tout. Alors les plus agiles même ne trouveront pas de refuge et les plus vigoureux ne pourront rassembler leurs forces. Le plus vaillant guerrier ne pourra pas sauver sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. L'homme le plus agile ne s'échappera pas. Même le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie. En ce jour-là, le plus vaillant des braves fuira tout nu. L'Éternel le déclare. Versets 13 à 16. Dieu se compare à un chariot qui écrase tout sur son passage tellement il est lourdement chargé. La destruction qu'il va produire sera proportionnelle à la bonté qu'il a montrée à son peuple et qui a été rejeté. L'amour de Dieu méprisé devient une vengeance juste et sainte. Sa miséricorde sans borne cède la place à un désastre sans nom. Le vocabulaire et les expressions utilisées par Amos font penser à ce qui se passe quand les gens sont surpris par un tremblement de terre. Il est question d'écrasement, d'un événement où la force et l'agilité ne servent à rien et où aucun échappatoire n'est possible dans aucune direction. Même les plus braves s'enfuient tout nus, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de s'habiller parce qu'ils sont sortis en toute hâte de leur maison en train de s'écrouler à cause du tremblement de terre. On comprend donc pourquoi au début du livre, Amos dit qu'il a reçu sa vision 2 ans avant le tremblement de terre. Il est intéressant de remarquer que le prophète ne parle que de ceux qui sont agiles, des plus vigoureux, du plus vaillant guerrier, du tireur à l'arc, du meilleur cavalier et du plus vaillant des braves. Alors on peut se demander ce qui est arrivé à l'Israélite moyen, aux faibles et aux pleutres, aux timides et aux léthargiques, aux malades et à l'infirme. Il va de soi qu'ils ont péri les premiers. Dans la liste des personnes qui tombent sous le jugement de Dieu, Amos ne mentionne explicitement que ceux qui sont assimilés à des surhommes pour souligner que personne n'échappera au châtiment. Les meules du moulin du jugement de Dieu mettent du temps pour se mettre en mouvement, mais elles broient en une poudre extrêmement fine. Beaucoup de gens vicieux continuent dans la voie du mal parce qu'ils s'imaginent pouvoir échapper d'une manière ou d'une autre à la juste rétribution de leurs actes malveillants. Un prophète écrit « C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple qui régniez à Jérusalem, voici ce que vous dites, nous avons fait alliance avec la mort, et avec le séjour des morts nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. » Le méchant n'a élaboré aucun plan pour échapper au jugement. Il s'est simplement créé un monde imaginaire dans lequel il nourrit une sorte de croyance dans le vide en se disant que s'il y a un Dieu et si un jour il y avait un jugement, il trouverait bien un moyen d'y échapper. Mais ce genre de raisonnement a autant de sens que d'essayer de passer à travers les gouttes un jour d'orage. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais à moins d'avoir un parapluie, vous prendrez une bonne saucée. Parlant du salut en Jésus-Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Le tremblement de terre qui eut lieu 2 ans après la vision du prophète fut ce qu'on appelle une catastrophe naturelle. Mais en réalité, c'est Dieu qui, dans sa colère contre son peuple, secoua la terre promise. Aussi grave que fut cette tragédie, ce n'était qu'un avant-goût, un prélude au grand châtiment final et définitif d'Israël Nord qui eut lieu en l'an 722 avant Jésus-Christ, date de la prise de la capitale de Samarie par les Assyriens. Le peuple fut alors soit massacré, soit emmené en captivité et disparu à tout jamais. Cependant, juste avant cette tragédie, beaucoup d'Israélites du Nord se réfugièrent dans le royaume de Juda, chez leurs frères du Sud, ce qui fait que les 12 tribus originelles étaient toujours représentées. Environ un siècle et demi plus tard, Juda fut jugé par Dieu et envahi à son tour, mais par les Babyloniens. Selon un scénario bien rodé, ils détruisirent Jérusalem et emmenèrent ses habitants en exil. Mais 70 ans plus tard, Cyrus, empereur des Perses et nouveau grand patron du Moyen-Orient, autorisa le peuple d'Israël à retourner dans son pays et à rebâtir les murailles de Jérusalem. Ces colons juifs n'étaient pas très nombreux, environ 50 000, mais ils représentaient toutes les tribus d'Israël. Amos a commencé son ministère en prononçant une série d'oracles très courts sur 6 nations païennes et sur les 2 royaumes israélites. comme un cyclone qui touche toute une région, le jugement divin va tourbillonner, balayant tous les peuples des alentours pour finalement arrêter son œil sur Israël Nord où il va s'attarder. Avec tact, Amos prophétise d'abord le jugement de Juda, sa propre patrie, avant d'annoncer celui du royaume des 10 tribus vers lequel il a été envoyé. Il faut savoir que les 8 peuples mentionnés sont coupables de très nombreuses transgressions, mais Amos n'en choisit qu'une ou deux. D'autres prophètes donnent des listes longues et détaillées des fautes que Dieu reproche à ses peuples. Ici, les nations païennes seront jugées pour des fautes transgressant des lois communément admises par tous les peuples. La cruauté, le commerce d'esclaves, la trahison d'un allié, l'entretien d'une haine perpétuelle et enfin la violation de sépultures et un acte de sacrilège envers la dépouille d'un roi défunt. Le royaume de Juda, quant à lui, sera puni pour ses transgressions de la loi de Moïse et pour son idolâtrie. Par sa dévotion aux idoles, il se met dans les rangs des nations païennes. Son sort sera donc le même que le leur, la mise à sac du pays. Enfin, dans un premier oracle contre le royaume d'Israël Nord, Amos dénonce premièrement les crimes sociaux qui s'y commettent et qui sont des atteintes contre l'Éternel lui-même. Deuxièmement, il lui reproche le refus de la révélation divine portée par les prophètes, et troisièmement, l'outrage envers les hommes consacrés ayant fait vœu de Naziréa. Ces fautes vaudront à Israël Nord un châtiment auquel personne n'échappera. Avec le chapitre 3 commence la seconde partie du livre qui contient un nombre d'oracles d'Amos contre Israël Nord. Elle comprend 3 sections qui débutent par « Écoutez cette parole ». Le prophète s'adresse spécifiquement aux 10 tribus du Nord pour leur rappeler que l'Éternel les a choisis bien avant le schisme d'Israël entre les 2 royaumes, à une époque où les 12 tribus ne formaient qu'un seul peuple qui incluait les Israélites de Juda. Je commence à lire. Écoutez bien cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir de l'Égypte. Je vous ai choisis. Et vous seul de toutes les familles de la terre, aussi vous châtirai-je pour tous vos crimes. Versets 1 et 2. Je vous ai choisi. Le verbe pour choisi a généralement le sens de connaître dans le sens d'une relation intime. Par le prophète Osée, l'Éternel dit à son peuple, « Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » C'est aussi le sens des paroles de l'apôtre Paul quand il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans les traités antiques, le mot « choisi » exprimait l'alliance d'une nation envers une autre. Amos va reprocher à Israël son ingratitude sur un ton qui ne tolère aucune réplique. La sortie d'Égypte est fréquemment mentionnée dans les Écritures parce qu'elle représente la preuve ultime de la faveur de Dieu envers le peuple qu'il a choisi de bénir. Israël sera châtié par Dieu avec plus de sévérité qu'aucune autre nation parce qu'il est véritablement le peuple élu, le peuple choisi. Après le déluge qui extermina hommes et animaux, l'humanité rejeta Dieu une fois encore et construisit la tour de Babel pour lui lancer un défi. Alors l'Éternel les dispersa en confondant leur langage, puis décida de choisir Abraham dans la ville d'Our, quelque part en Irak. Il lui demanda de quitter sa patrie pour un autre pays qu'il lui révélerait et qu'il lui donnerait en temps voulu, et il lui promit aussi qu'il ferait de lui une grande nation. Le temps passa, et Abraham engendra Isaac, qui donna naissance à Jacob, l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Ce peuple fut esclave en Égypte pendant plusieurs siècles, mais il en sortit et dans le désert, l'Éternel lui donna la loi. Israël est la seule nation à laquelle l'Éternel a décidé d'accorder des bienfaits particuliers. Il s'ensuit que les Juifs ne sont pas comparables à un autre peuple. Je lis deux passages. « Mais vous, l'Éternel est allé vous chercher, il vous a arraché à cette fournaise de fer qu'était l'Égypte, pour faire de vous son peuple, celui qui lui appartient comme vous l'êtes à présent. Vous êtes en effet un peuple saint pour l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre, pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux. » Dieu voulait que par l'intermédiaire des Israélites, sa parole atteigne le monde entier. Mais ce fut un fiasco complet. Or, le privilège de l'élection implique une plus grande responsabilité. L'élu est d'autant plus responsable qu'il agit en connaissance de cause. Contrairement aux nations païennes que le prophète Amos a citées, Israël a blessé l'amour de Dieu en rejetant la lumière et la connaissance qu'il lui avait accordée. Voilà pourquoi Dieu leur dit « Aussi vous châtirai-je pour tous vos crimes ». Sous le régime de la Nouvelle Alliance, privilèges et responsabilités vont aussi de pair. L'amour de Dieu est un concept largement accepté et peu de gens contestent le fait que Dieu a prouvé son amour envers les hommes quand Jésus est mort sur la croix pour porter leurs péchés. Mais quand cet amour sacrifice est rejeté, la seule alternative qui reste est le châtiment. La justice de Dieu sera beaucoup plus intransigeante envers ceux qui connaissent l'histoire de Jésus-Christ qu'envers ceux qui ignorent jusqu'à son existence. Jésus a dit « Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Il vaut 100 fois mieux être un indigène au fin fond de l'Amazonie qui se courbe bien bas devant une statue de bois qu'un protestant de tradition huguenote qui possède la parole de Dieu chez lui, mais qui n'a jamais pris position pour Jésus. Dans l'Église aussi, privilèges et responsabilités vont de pair. Ainsi, ceux qui ont une position d'autorité seront évalués en fonction de la façon dont ils auront rempli leur ministère. Je lis un passage. « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Je continue le texte d'Amos. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Verset 3. À partir d'ici, le prophète introduit dans son discours 7 questions de rhétorique afin de montrer qu'il n'y a pas d'effet sans cause ou qu'une cause produit son effet. Il veut enseigner par là que certains événements ne sont pas fortuits, mais la conséquence logique d'une action préalable. C'est ainsi que 2 personnes ne marcheront main dans la main que si elles se sont rencontrées et mises d'accord pour faire la route ensemble. En fait, par cet interlude, Amos justifie son droit de prophétiser et l'obligation qui est la sienne d'annoncer le jugement imminent d'Israël Nord. Dans cette mini-parabole et dans l'esprit de la vision prophétique, les 2 hommes mentionnés sont des symboles qui représentent d'une part le châtiment de l'Éternel et d'autre part le message d'Amos, lui-même étant en parfaite harmonie avec l'Esprit de Dieu qui l'accompagne et qui confirme ses paroles. Cela dit, la question de rhétorique « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» se prête très bien à une interprétation littérale. Si je veux marcher avec Dieu, je n'ai pas d'autre choix que de m'entendre avec lui. Que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir, ou dans l'éternité future, l'Éternel accomplit ce qu'il a résolu d'avance selon le conseil de sa seule volonté, et il est évident que rien, ni aucun être vivant, ne peut contrecarrer ses plans. Dans le même ordre d'idées, le prophète Ézéchiel décrit une scène qui peut prêter à sourire, mais elle n'est pas drôle du tout parce qu'elle précède le châtiment du royaume de Juda qui fut détruit par les Babyloniens. Cette scène est l'Éternel qui, revêtu de gloire, se déplace triomphalement dans son chariot. Ce qu'il me faut retenir est que si je ne veux pas me faire écraser, j'ai intérêt à m'entendre avec mon Créateur pour qu'il me laisse monter dans son chariot. Or, et comme je le dis assez souvent, sur la croix, Dieu a conclu une alliance avec vous et moi où il stipule qu'il nous accepte tels que nous sommes si nous venons à lui par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Dieu a rempli et signé ce contrat et tout ce qu'il vous demande est d'apposer votre propre signature.